bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Grand Bien Vous Fasse édition grand format. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Les ados face au confinement, tel sera le thème du premier dossier de l'émission. À l'âge où l'on aspire à plus d'autonomie et d'indépendance, comment faire en sorte que la cohabitation 24 heures sur 24 avec les parents, avec les frères et sœurs, se passe bien? Comment donner un cadre à son ado sans l'étouffer? Faut-il être plus permissif avec les écrans et l'accès aux réseaux sociaux en ce moment? Certains problèmes comme les addictions, les troubles alimentaires ou la dépression peuvent-ils survenir ou s'aggraver avec le confinement? Et comment accompagner au mieux les jeunes dans ce cas? Nous allons en parler avec la psychiatre Catherine Jousselme et le psychologue Didier Pleu. Et nous attendons bien sûr vos témoignages et vos questions au 01 45 24 7000 ou sur la page de Grand Bien Vous Fasse sur franceinter.fr. Ados, parents, grands-parents, racontez-nous comment ça se passe pour vous en famille après 4 semaines de confinement. Vers 9h55, nous retrouverons l'ami Denis Chessou pour une nouvelle page blanche et verte. En début de deuxième heure, nous nous évaderons avec l'explorateur Jean-Louis Etienne. Puis nous tendrons l'oreille pour écouter les sons de nature assez incroyables enregistrés par le bioacousticien Boris Jolivet. Et puis dans la dernière partie de l'émission, vers 10h35, nous nous intéresserons à l'asthme et aux allergies. Comment gérer ces troubles respiratoires pendant l'épidémie de Covid-19? Vous pourrez poser toutes vos questions à notre invité, l'allergologue Édouard Sève. Pour nous accompagner jusqu'à 11h, avec moi, Sophie Bécherel de la rédaction de France Inter. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne au temps du confinement, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Daniel Fievé.
Et plus particulièrement aujourd'hui, la vie des ados au temps du confinement et puis celle de leurs parents aussi. On en parle ce matin avec nos invités Didier Pleu et Catherine Jousselme. Didier Pleu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Vous avez notamment publié « Développer la concentration de son ado » aux éditions Odile Jacob. Également avec nous Catherine Jousselme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre spécialiste de l'enfant et de l'adolescent, chef du service du centre hospitalier Fondation Vallée, et vous avez notamment publié « À la rencontre des adolescents, les écouter, les comprendre, les aider ». C'est aussi aux éditions Odile Jacob. Première question pour vous, Catherine Jousselme. Les ados en ce moment, ceux qui vous consultent, qui ont des consultations avec des psychiatres ou avec vous, qu'est-ce qu'il ressort de ces consultations? De l'abattement, de l'angoisse, de la colère, qu'est-ce qui domine?
Tout, c'est-à-dire que d'abord ils ont besoin d'être reconnus dans ce sentiment que leur projet de vie, pour certains, bascule. Mmh. Alors ça dépend de l'âge, hein. Le bac par exemple, d'un seul coup ils ne savaient plus du tout comment ça allait se passer, ceux qui étaient à l'étranger qui ont dû revenir, il faut reconnaître déjà que oui, ce qui leur arrive comme à nous adultes est quand même un truc absolument incroyable. Et si on reconnaît ça, la colère qui vient justement derrière, on peut en discuter et on peut à ce moment-là commencer à trouver des solutions pour les aider à continuer à être des adolescents, c'est-à-dire à avoir confiance dans leur avenir avec leurs doutes d'adolescents et leur quête identitaire. Donc c'est vraiment un travail clinique, mais aussi, j'allais dire, dans la vie du quotidien, pas seulement ceux qui vont mal, hein. Je crois que c'est un travail pour les adultes assez extraordinaire que d'essayer de préserver cette génération qui est en passe de devenir adulte en leur montrant que au milieu de ce qui se passe, il y a quand même des grands axes, celui notamment de l'humanité, de l'altruisme, du civisme, de la protection de l'autre, qui sont des essentiels et que cette crise sanitaire sans précédent, qui les angoisse bien évidemment pour leurs grands-parents, pour leurs parents, pour eux-mêmes, pour leurs copains, peut-être on va tous arriver à en faire quelque chose.
Vous avez
moi,
noté...
Je les trouve très créatifs.
Très créatifs, ah oui, pour quelle raison?
Eh bien, je pense qu'il y a quand même dans cette crise un resserrement de certains liens qui peuvent être explosifs à certains moments et rendre des choses compliquées chez certains, bien sûr, hein. Mais il y a aussi quelque chose qui, dans les angoisses très anciennes que ce genre d'épidémie met en place, hein, quelque chose qui fait que les parents, les grands-parents, tout le monde se dit « mais non, la vie, c'est l'essentiel ». Et donc, à partir de là, des choses qui paraissaient vraiment très pénibles aux adolescents certains les voient plus du tout pareil, ni les parents ni les grands-parents non plus d'ailleurs. Le poids a été quand même très dur au début du confinement parce que le monde a basculé, il faut être clair, hein, pour tout le monde. Faire ses courses devient l'impression de partir sur Mars, enfin il y a vraiment des choses qui sont très compliquées à vivre. Donc il a fallu prendre conscience de ça puis s'y habituer. Mais secondairement, il y a quelque chose qui est maintenant, on a trouvé un petit peu des marques, comment on peut en faire quelque chose. Je trouve que là-dessus, les mots que les parents utilisent d'ailleurs pour la famille ou même les ados, c'est notre équipe, nous on fait un bon groupe, une bonne équipe, bonne troupe. On a l'impression que tout le monde s'adapte et cherche des moyens et les ados imaginent des choses, notamment entre eux. Il y en a qui reprennent des carnets pour écrire au jour le jour alors qu'ils étaient que sur les écrans. Il y en a qui créent des groupes WhatsApp vachement intéressants. Il y en a qui essayent de partager des musiques. Il y en a qui font des concerts pour les autres. Enfin, il y a vraiment une créativité, je trouve, assez extraordinaire. Et ça, faut vraiment se le dire ensemble parce que ça nous fait à tous du bien.
Allez, Didier Pleu, quels effets vous semble particulièrement ressentis chez les ados liés à ce confinement?
Mais en fait, moi, le confinement me rend assez optimiste parce que les témoignages que j'entends, je vois d'abord qu'il y a beaucoup d'adolescents qui s'adaptent très bien à ce confinement. Hein. C'est très paradoxal, ce qui prouve que les adolescents adaptés sont pas forcément névrotiques, soumis ou je ne sais quoi. Et l'autre chose qui me rend très optimiste, c'est que là, on vient de rééditer L'Enfant Roi, un livre que j'avais écrit il y a 20 ans, et on a mis un bandeau qui est « Lorsque le parent paraît ». Et ce qui me rend optimiste dans le confinement, c'est que je vois aussi beaucoup d'adolescents qui me disent qu'ils retrouvent leurs parents. Ils retrouvent leurs parents, pas simplement des parents qui seront là qu'en protection, en communication et souvent dans une sorte d'animation de loisirs, mais ils retrouvent des parents qui reprennent une certaine autorité et qui effectivement imposent des agendas pour le scolaire, qui effectivement abordent les sujets pas très sympathique côté des écrans, les addictions, ces choses-là, qui remettent un peu d'ordre là-dedans. Donc il y a des tas d'ados qui me disent, finalement c'est dur, mais finalement j'ai l'impression que j'étais en train de basculer dans des choses pas terribles avec les réseaux sociaux, avec mes petits plaisirs immédiats, et mes parents sont en train de me parler différemment, sont en train de me dire que faut peut-être partager les tâches ménagères, faut peut-être préparer des repas, faut peut-être penser aux grands-parents qui sont distants et à qui il faut écrire, bref. C'est comme s'il y avait une petite période de rééducation dont certains ont besoin.
Ils retrouvent un cadre et pour certains, en tout cas, ça leur fait du bien. Enfin, c'est un mal pour un bien, c'est ça?
Tout à fait, oui. C'est-à-dire que et beaucoup de parents aussi témoignent en disant je ne voyais pas mon enfant ou mon ado comme ça parce que pour moi, j'avais l'impression que c'était la crise, la fameuse crise d'adolescent dont tout le monde parle. Et en fait, non, il y en a qui se rendent compte que ce sont simplement parfois des adolescents en crise qui étaient en manque de parents, d'adultes significatifs, et c'est ça qui est vraiment le bon côté du confinement.
Elisa nous envoie ce mail. J'ai constaté autour de moi, chez des personnes qui ont des adolescents, que ceux-ci refusent de sortir. Quel impact cela peut-il avoir sur leur santé physique et psychique? Catherine Jousselme.
Alors ça c'est intéressant parce que un certain nombre d'adolescents ont une peur, qu'ils ne disent pas forcément d'ailleurs, qui est de contaminer leurs parents. Parce que ça on le dira jamais assez, je crois qu'il faut essayer de pas regarder trop la télé tout le temps parce que les informations sont dans tous les sens et font très peur. Alors s'il y a eu un cas dramatique, évidemment les adolescents l'ont en tête par rapport aux adolescents eux-mêmes et puis par rapport à des jeunes qui auraient contaminé leurs parents, c'est la même chose. Donc un certain nombre ne sortent pas pour ça. Et à partir du moment où on arrive à aborder ça, ça change un peu. C'est-à-dire de pouvoir expliquer que bien sûr, la vie est faite de risques, mais là, avec le confinement qui a commencé à avoir lieu depuis un certain nombre de temps, quand on est confiné ensemble, a priori, et qu'on sort en respectant toutes les mesures barrières, il n'y a plus ce risque du départ. Et c'est une façon assez incroyable de revisiter les liens parents-enfants, de parler de ça. C'est-à-dire que les parents puissent redonner aussi confiance à l'adolescent, alors que d'habitude, ils sont en train de le disputer pour plein de choses autour des limites. C'est très fort comme chose à échanger. Je m'en aperçois aussi, j'ai l'impression que le confinement agit un peu comme un révélateur. Certains ne sortent pas non plus parce qu'il y a des traumas du passé dans la famille, parce qu'il y a eu des deuils particuliers, parce qu'il y a eu des moments où la famille a été enfermée pour une raison X dans une chambre d'hôpital, parce que sais-je. Et de revisiter ça, de poser la question, mais finalement, t'as pas envie de sortir, mais moi non plus, puis pourquoi? finalement, on arrive à trouver le pourquoi. Et c'est pas la même chose pour tout le monde.
Catherine Jusselm, c'est intéressant parce que on a beaucoup entendu que les ados, en tout cas certains, n'étaient pas disciplinés, qu'ils se sentaient invincibles, pas forcément concernés, parce que immunisés ou en tout cas moins sujets à des formes graves du Covid-19. Mmh. Et donc, certains ne jouaient pas le jeu, en tout cas au début, et sortaient de façon un peu inconsciente. Et puis, on se rend compte, en discutant avec vous, que c'est beaucoup plus subtil que ça, il y a beaucoup de nuances, et que certains ados, au contraire, ne sortent pas assez, qu'il faut presque les encourager à prendre l'air un petit peu.
Tout à fait, et il faut aussi les aider à rétablir une certaine temporalité, parce que notre horloge chronobiologique a vraiment besoin d'au moins 2 heures de lumière le matin, par exemple, pour pas se décaler, et à l'adolescence, notre cerveau, il est en pleine ébullition, il fait plein de nouveaux circuits, etc., et c'est encore plus compliqué de ne pas prendre la lumière et de décaler son sommeil, etc. Donc ça, cette temporalité très bizarre aussi, elle est, j'allais dire, plus possiblement pathogène sur le sommeil chez les adolescents. Donc faut y être très attentif et parler du pourquoi on n'a pas envie de sortir. Et parfois, moi j'ai des familles ou même des amis d'ailleurs, où ressortent des choses où il y a beaucoup d'émotions secondaires autour de ça. Et du coup, un soutien commun des parents et des ados autour de cette histoire-là. Ouais. Bah oui, effectivement, t'as peur pour nous, mais c'est pas très étonnant avec ce qu'on a vécu, avec ce qui s'est passé. Et du coup, on peut arriver à avancer. Mais cette histoire de temps et de dedans et de dehors, dans toutes ces situations traumatiques de vie, parce qu'on est en train tous de vivre une situation quand même traumatique, ça donne des choses aussi très bizarres, de déréalisation, c'est-à-dire l'impression que les choses du monde ne sont pas les mêmes, un peu d'un seul coup comme si on disait mais c'est un décor de cinéma cette histoire, mais je suis dans un film, ou même de dépersonnalisation, mais je me sens plus comme avant. Ce sont des sentiments absolument normaux que les adolescents vivent déjà habituellement avec le processus d'adolescence à certains moments. Donc certains voient ça exacerbé, augmenté, et les parents face à ça sont parfois un peu désarmés. Je pense que vraiment le maître mot, c'est essayer de se reconnaître les uns les autres. Je te vois pas comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe ?
Catherine Jusselm, nous allons prendre un premier appel au standard parce qu'il commence à être nombreux ces appels et on vous en remercie. Emma, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez, je crois, un fils de 16 ans. Comment ça se passe ?
Comment ça se passe ? J'étais très attentive à ce que votre interlocutrice disait juste avant. Effectivement, ça se passe, c'est un peu compliqué. J'ai un fils qui est déjà de base, de nature, n'est pas un couche-tôt. Mais alors là, pour le coup, je suis confrontée à quelque chose pour lequel je suis complètement désarmée. C'est que il a presque inversé maintenant et il vit la nuit. Donc je suis dans une situation très très particulière parce que on est en dialogue, on essaye de d'avancer par rapport à cela. Je pense qu'il y a une extrême sensibilité de sa part par rapport à ce qui est en train de se passer, même si il le verbalise pas forcément de cette manière-là. Mais je crois que ses amis lui manquent, que l'école, ça n'a plus du tout aucun intérêt pour lui. C'est pas un enfant qui, à la base, était vraiment très déjà très assidu, on va dire, par rapport au travail, mais quand même, il y a des efforts qui pouvaient être fournis. Mais là, pour le coup, on se retrouve dans une situation qui est ubuesque.
Merci.
J'ai mon fils qui préfère être la nuit à regarder des films, à presque jouer du piano, à se nourrir quand même. Je vérifie à chaque fois qu'effectivement les choses ont été mangées. Mais du coup, j'essaye de rester très positive par rapport à cette situation parce que je ne veux absolument pas lui mettre la pression plus qu'il ne faudrait parce que la situation est particulière. Mais malgré tout, je suis un tout petit peu perdue et je me dis que, par exemple, effectivement, l'histoire de la lumière et de tout ce que ça implique la journée, c'est très important. Donc je vais le réveiller la journée, je tente des choses. Il y a des moments où il se lève et puis d'autres moments où en fait on se rend compte qu'il est parti se recoucher sans dire un mot. Et
ça vous inquiète.
Et on
le comprend. Merci Emma. Didier Pleu, qu'est-ce que l'on peut conseiller à Emma ? On comprend devant ses habitudes qui changent de son ado et puis s'inquiéter sans trop savoir quoi faire pour que ça change.
Oui, mais ce que j'entends, c'est que c'est très difficile pour Emma si effectivement son ado commence à avoir une vie nocturne, etc., et marche à l'envers. Mais j'ai envie de dire, j'entendais qu'elle disait qu'il faut qu'elle évite de mettre la pression, qu'elle essaie d'avoir un dialogue constant avec son fils, et ce qui est très 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 bien. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre. Il y a des parents qui confondent en ce moment l'attitude de leur enfant. Ils traduisent ça comme si c'était une sorte de dépression, de sentiment de malheur par rapport au confinement. Et ça peut être aussi ce que j'appelle très souvent de l'intolérance aux frustrations, c'est-à-dire qu'il y a des adolescents qui vont pas accepter ce principe de réalité qui est effectivement on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut, hein, c'est pareil pour tout le monde, et ces adolescents-là vont essayer de retrouver du plaisir immédiat. C'est pour ça qu'ils se jettent sur les écrans pour retrouver leur fameuse dopamine, là, le circuit de la récompense, qui fait que ils sont toujours addicts à tout ce qui est fun, plaisant, etc. Et je crois que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est le moment pour les parents non pas de rentrer en conflit permanent, mais de dire je suis très inquiet parce que j'ai bien l'impression que cette réalité du confinement renforce tout ce que j'avais repéré un petit peu avant chez toi, c'est-à-dire que tout ce qui est difficile, contraignant, le scolaire, hein, avant le confinement, tout ce qui est de l'ordre des exigences, tu n'aides pas à la maison, tu ne penses pas tellement aux autres, etc. Alors bien sûr, je noircis le tableau, mais c'est peut-être le moment de dire tu n'es pas simplement malheureux, tu es dans une situation de frustration très dure pour toi, et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on travaille ensemble, parce que il y aura la sortie du confinement, et si on s'habitue pas dès maintenant à d'autres rythmes de vie, à retrouver une espèce de normalité avec la scolarité, avec des partages avec nous, mais aussi avec des contraintes, je crois que ce sera difficile pour la rentrée.
Voilà pour un conseil. Déjà, il y en aura d'autres, hein, dans la suite de cette émission. Les ados en mode confinement, on en parle ce matin sur France Inter avec nos deux invités, le psychologue Didier Pleu et la psychiatre Catherine Jousselme. Et vous, hein, vous nous rejoignez au 01 45 24 7000 ou sur la page de Grand Bien Vous Fasse sur franceinter.fr. Cette émission est réalisée par Frédéric Milano. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Pierre de Certaines. Au standard, c'est Théo et Bianca, et à la technique, Alexandre Chenet, tous ensemble. C'était Désolé Gorillaz et Fatoumata Diawara sur France Inter.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Les ados au temps du confinement, nous en parlons avec nos invités, le psychologue Didier Pleu et la psychiatre Catherine Joussel. Mais Sophie Bécherel, bonjour, qui est avec nous.
Bonjour.
Alors, beaucoup d'études sur le ressenti de la population en général face au confinement ont été lancées. Est-ce que certaines s'intéressent plus spécifiquement au cas des adolescents?
Eh bien, très très peu. J'en ai cherché, j'ai appelé et je n'ai pas trouvé grand-chose. Par exemple, en ce moment, il y a une étude qui a démarré avec le début du confinement qui s'appelle Coconel, qui est menée par des chercheurs en sciences sociales, des économistes de la santé notamment. Et en fait, elle n'inclut pas, c'est un échantillon représentatif de la population, et elle n'inclut pas les moins de 18 ans. Donc, on ne saura pas. On ne saura pas notamment si le taux de personnes qui ressentent une détresse psychologique, 37% quand même, dans l'ensemble de la population française, et ceux qui ont des problèmes de sommeil, 74% depuis le début du confinement, est-ce que les adolescents finalement ressentent ces choses-là dans les mêmes proportions? Il existe tout de même une étude qui va démarrer là à l'échelle internationale à l'initiative du Chant Schulab, donc au Canada, du nom de ce médecin, le docteur Prévost Janchou, qui est au laboratoire de recherche clinique, épidémiologique et translationnelle. Cette étude, elle sera menée avec le CHU Sainte-Justine de Montréal et le LEPS, le Laboratoire Éducation et Pratique de Santé de l'Université Paris 13. Alors, comme toutes ces études qui sont en ce moment en cours et qui tentent de recueillir soit le ressenti des Français, soit les changements que ce confinement implique dans leur vie quotidienne, cette étude va interroger à distance, évidemment, par questionnaire sur Internet, les 14-22 ans, afin d'étudier la perception de l'épidémie, afin de mieux comprendre les besoins des jeunes en cette période de confinement, et aussi elle va chercher à identifier les défis à relever pour ceux qui ont une maladie chronique. Peut-être on en parlera dans cette émission, mais ça n'est pas rien quand on est adolescent avec une maladie chronique et que le suivi n'est plus le même que d'habitude. Alors l'idée au final, ce sera évidemment de mettre au point des mesures de précaution adaptées. Donc finalement, les adolescents, si vous avez entre 14 et 22 ans, ou vous, parents, si vous avez des enfants dans cet âge-là, eh bien vous pouvez participer à ce questionnaire, à ce suivi. On le remplit, on mettra l'adresse sur notre site et on saura donc à la sortie si les adolescents ont réagi de la même manière à toutes ces contraintes que nous vivons tous en ce moment. Évidemment, c'est une crise inédite.
Et oui, Catherine Joussel, ce sera intéressant de regarder les résultats de cette étude. Selon vous, est-ce que certains troubles qui concernent les ados, mais pas seulement les ados, comme les addictions, les troubles du comportement alimentaire, on pense à l'anorexie, à la boulimie, est-ce que ces troubles peuvent être accentués, aggravés par la situation actuelle?
Ce qu'on voit bien, c'est que les fragilités de certains adolescents qui existaient, qui préexistaient, ce que disait le collègue de l'intolérance à la frustration, les troubles divers et variés, bien évidemment peuvent exploser, j'allais dire, dans la situation du confinement. Parce que le rapprochement parent-enfant peut être très utile sur des bases, j'allais dire, qui sont pas trop compliquées. Mais quand il y a des bases compliquées, évidemment, ça peut devenir très difficile. Et on voit en ce moment certains adolescents qui, effectivement, s'enfoncent dans des troubles du sommeil graves. Et là, il faut absolument consulter. Il y a plein de lignes qui peuvent aider dans ces moments-là. Pareil pour les troubles alimentaires et surtout sur la dépression, avec cette impression que le temps se fige et qu'on ne peut plus rien faire et que l'école qui était déjà difficile en présentiel devient insurmontable face à un écran, avec l'impression qu'on ne comprend vraiment plus rien et que à quoi ça sert tout ça. C'est-à-dire que le processus d'adolescence pour certains adolescents se stoppe, alors que pour d'autres, ils arrivent à trouver des aménagements avec les parents pour arriver à ce qu'ils continuent. Mais tout le monde n'est pas égal, c'est-à-dire que c'est pas non plus la même chose que de vivre dans une grande maison avec un jardin où chacun peut avoir une pièce pour s'isoler, et puis dans un appartement sans balcon où on est un peu les uns sur les autres et où cette obligation de moment d'indépendance de l'adolescent, de territoire on va dire, n'est pas respectée, ne peut pas être respectée. Et là il faut vraiment être encore plus inventif pour arriver à trouver un moyen pour enfin rétablir un certain équilibre et que les troubles ne s'aggravent pas. Donc c'est vraiment une situation, si vous voulez, je crois, où il y a beaucoup de gens qui arrivent à se débrouiller, à trouver des aménagements, à faire par exemple une famille qui me disait je fais un jour off pour mon ado, je trouve ça super, c'est-à-dire que il y a un moment où on est tous dans les règles de la vie de la famille et puis il y a un jour par semaine où lui il dit bon aujourd'hui je vis à mon rythme et puis après il retrouve le rythme de la famille. Ça réimplique l'indépendance que cet adolescent pouvait avoir. ça dépend de l'âge aussi, c'est pas tout à fait pareil. À 12 ans, on voit beaucoup là des étudiants qui ont 18 ou 19, qui avaient un studio, et puis pouf, ils sont rapatriés brutalement, ils étaient en classe prépa ou ailleurs, ou même des jeunes qui travaillaient déjà et qui travaillent plus et qui se retrouvent confinés, c'est pas du tout le même problème. Donc les troubles des uns et des autres ne se gèrent pas de la même façon. Moi, je crois que vraiment la chose importante, c'est de pouvoir dire que quand un parent sent que son ado est en train de basculer, c'est pas simplement il se décale un peu, il mange vaguement plus, c'est pas ça. C'est que vraiment il a l'impression que s'il avait des troubles, ces troubles s'aggravent de façon majeure, que par exemple scolairement c'était déjà difficile, mais là il a totalement décroché, il faut absolument se rapprocher des lignes téléphoniques de soins qui existent partout, s'il n'y avait pas déjà un contact avec un milieu soignant, pour être aidé, soutenu, et maintenant il y a énormément de consultations en visio ou par téléphone qui se développent, et qui sont objectivement une pratique clinique complexe, mais qui sont très très utiles. Moi, je trouve qu'on a changé notre façon de faire, mais que c'est très utile.
Ne pas hésiter à chercher et à trouver de l'aide. Corinne, vous nous avez appelé. Bonjour Corinne.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir patienté au standard. Alors vous avez un ado de 17 ans. Comment ça se passe?
Alors oui, il a 17 ans, il est en première et ça correspond exactement à ce que vient de dire le docteur Catherine Joussen, c'est-à-dire qu'il se posait des questions avant le confinement sur est-ce que je continue, à quoi ça sert l'école, j'ai envie de d'avoir du concret dans ma vie, j'ai plus envie de rester assis sur une chaise, et avec une dégradation là suite au confinement liée en partie donc aux cours en visioconférence ou audioconférence, des devoirs à rendre. Et je pensais que cette situation de confinement pouvait l'aider puisqu'il ressentait de l'angoisse à aller à l'école. Il est en première. Et je me rends compte que finalement, ça n'a fait qu'aggraver les choses. C'est-à-dire que là, il a envie vraiment de tout lâcher. Et ma question était, est-ce que... Alors, il était suivi par une psychologue, hein, en présentiel, donc. Et là, la psychologue lui a proposé de le recevoir à travers une visioconférence, et là, il a refusé.
Alors, donc, il a refusé. Alors, c'est intéressant, Corinne. Je voudrais, alors, rapidement, hein, Catherine Joussel, pour aussi avoir l'avis de Didier Pleu, comment faire, justement? Vous dites, il faut appeler à l'aide, sauf que un ado qui va pas bien, a pas forcément envie d'aller voir un psy ou de téléphoner à un psy ou de l'avoir en visio par Internet. Alors, comment on fait pour lui faire ce pas-là?
Eh bien, déjà, on appelle soi et on lui montre qu'on appelle. On lui dit, écoute, je comprends, c'est compliqué pour toi, c'est bizarre pour moi aussi, mais moi, je vais essayer. Je suis trop inquiète, j'essaye. Donc, j'appelle en visioconférence et puis ça se passe dans la maison. Et puis, peut-être qu'il faudra 2 ou 3 rendez-vous comme ça où l'ado sera pas là pour que finalement, il puisse se dire, ça peut être intéressant. C'est vraiment des choses très subtiles qui dépendent de chaque individu. Mais je pense qu'un ado qui sent que son parent est vraiment inquiet pour lui, au bout d'un moment, des choses peuvent se faire. Et puis, sur les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, se développent aussi en ce moment des possibilités pour certains de visites à domicile. Et puis, il y a toujours aussi des consultations en urgence, en présentiel, qui peuvent exister et qui existent avec toutes les mesures barrières. C'est très compliqué, c'est ce qui a demandé beaucoup, beaucoup de travail en psychiatrie dans les 3 premières semaines de confinement, c'est de mettre en place des systèmes de soins qui soient adaptés à chaque problématique.
Catherine,
et là, ce que dit l'auditrice, c'est vraiment c'est ça comme problématique.
Catherine, je voudrais aussi qu'on entende l'avis de Didier Pleu là-dessus. Comment convaincre un ado qui n'a pas envie de consulter alors que manifestement ça lui ferait du bien?
Là, je crois qu'effectivement, le parent doit simplement dire t'as besoin de soins et je prends la décision pour toi. Là, je crois qu'il n'y a pas tergiversé, mais je voudrais pas simplement qu'on entende dans votre émission qu'effectivement, les adolescents sont tous fragiles et risquent de rentrer dans des pathologies lourdes. Bien sûr que c'est une période difficile de l'adolescence, mais je répète, le confinement va révéler chez l'adolescent sa capacité à s'adapter, à s'accommoder à ce qu'on appelle le principe de réalité. Et beaucoup d'adolescents vont souffrir de ce que j'appellerais de fausses pathologies, tout cela parce que c'est trop dur pour eux d'être confinés, d'être prisonniers, d'une période de liberté, de ne plus être dans le principe de plaisir. Et c'est ça qu'il faut que les parents voient, observent et travaillent avec eux en disant Écoute, tu n'aimes pas plus la scolarité, encore moins maintenant depuis que tu es confiné, mais c'était un problème avant. Ouais. J'ai vu que tu étais sur les écrans, mais c'était un problème avant. Je crois qu'il faut profiter de tout cela pour redonner un petit peu un aspect éducatif à tout ça, qu'on partage des choses avec les ados, mais surtout ne tombez pas dans le panneau que ouais. L'adolescent est forcément fragile, et va s'écrouler, etc.
Vous voulez ça, pas qu'on les bichonne trop, oui, oui, bien sûr.
Les psychologues, ce sont des cas pathologiques.
Allez, on va écouter Karine qui peut-être va aller dans votre sens. Bonjour Karine.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Merci. Alors comment ça se passe avec votre adolescent, à vous?
Oui, alors nous, ça se passe plutôt bien. Et je trouve que c'est une période qui peut être très, très positive, à moins que je voulais... être plutôt encourageante pour certains parents. Effectivement, notre fils est notre dernier enfant, notre cinquième. Donc, on est confiné avec lui à 14 ans. Mm-hmm. Les grands ne sont plus à la maison. Et au début, c'est vrai qu'il y a une période de considération, d'adaptation un petit peu compliquée.
Karine, est-ce que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu de votre combiné de façon à ce qu'on ait moins votre souffle dans le téléphone? On vous écoute.
Oui, je parle directement dans le micro. Vous m'entendez mieux?
Oui, c'est très bien comme ça.
Voilà, excusez-moi. Oui, donc c'est une période en fait qui, je pense, lui a permis de se retrouver face à lui-même et face à ses capacités d'adaptation, effectivement. C'est plutôt un enfant qui avait plutôt élève moyen, mais du mal surtout dans la concentration en classe, toujours un petit peu à s'occuper des uns des autres, hypersensible, les histoires, etc., d'adolescents. Et donc là, en fait, se retrouver un petit peu seul, gérer son temps tout seul. C'est vrai que dès le début, je lui ai dit, tu as une occasion ici à saisir, c'est-à-dire faire preuve d'autonomie dans ton travail, montrer ce que tu peux faire en gérant ton temps au mieux que tu le peux. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il s'est finalement matin et soir inscrit dans une routine de, par exemple, d'exercices à faire, assez difficile, d'abdominaux, etc. Voilà, pour se maintenir en forme. Ouais. Donc ça, c'est pas nous qui lui avons donné. Et il ne déroge absolument pas à cette règle qui s'est fixée. Et en même temps, au niveau du travail, comme il a plus de temps, effectivement, le temps s'étale un peu, mais ça lui donne confiance en lui, en ses capacités de réussir. Il a des très bonnes notes sur le confinement. Bon, voilà, les notes étant pas si importantes puisque ça ne compte pas, mais c'est pas grave. Ouais. Et je pense qu'il a compris que cette occasion, c'était de montrer aussi au professeur que voilà, il était capable de se prendre en charge.
Bon.
Et ça le fait mûrir vraiment d'un coup.
Voilà, exemple. Un ado qui vit ça bien. Vous aviez raison, Didier Pleu, c'est pas forcément la catastrophe et tous les ados ne se laissent pas forcément aller par ces temps de confinement. Allez, on va poursuivre cette discussion. Merci Karine de nous avoir appelé. Et puis on poursuit cette discussion avec vos nombreux messages qui arrivent sur la page de l'émission Grand Bien Vous Fasse sur franceinter.fr.
Something's happening in the country, and the government's to blame. We got married in a gold rush, and the rush has never felt the same. Shared a moment in a cafe, shared a kiss in pouring rain. Oh, we got married in a gold rush, and the sight of gold will always bring me pain. I don't wanna hear the rumors, please don't say it loud. I just wanna go out tonight and make my baby proud. Boy, who's your baby? Girl, you don't know by now. There's two seats on the midnight train, the gold won't weigh us down. Desert. All that loving turned to hate. We got married in a gold rush, and those wedding bells were ringing out our fate. I don't wanna hear the rumors, please don't say it loud. I just wanna go out tonight and make my baby proud. Boy, who's your baby? Girl, if you don't know by now. There's two seats on the midnight train, the gold won't weigh us down. The rush is on to somewhere else, we're running out of time. house now is just an empty mind. Animals don't understand the words on the danger sign. For them it's just some shade from the morning shine. I thought you might learn the language. I thought you might learn to sing. We were born before the gold rush, so why can't I remember anything? I wanna put things back together. I wanna give, don't wanna take. Time to disavow the gold rush.
C'était Vampire Weekend, Married in a Gold Rush sur France Inter.
France Inter, grand bien vous fasse, Daniel Fievé.
On parle des ados au temps du confinement avec nos invités, le psychologue Didier Pleu et la psychiatre Catherine Jousselme, et vos nombreux messages qui arrivent sur Internet. Effectivement, certains ne sont pas alarmistes. Hein. Nous partageons le confinement avec notre fille de 15 ans. Tout se passe bien. Elle est d'un naturel assez casanier. Elle gère bien ses devoirs. Elle nous a même dit que le confinement n'était pas si mal que ça. Elle est bien sûr en relation avec ses copains par Internet et sera heureuse de les retrouver en chair et en os. C'est ce que nous dit Claire. Et il y a d'autres, comme ça, messages plutôt positifs. Est-ce qu'il faut, Didier Pleu, justement parce que ces adolescents ne sont plus en lien, ne peuvent plus voir leurs amis, est-ce qu'il faut assouplir l'accès aux écrans, l'accès aux réseaux sociaux, ou est-ce qu'il ne faut pas mollir là-dessus, Didier Pleu?
Non, surtout ne pas assouplir, parce qu'on sait que les écrans sont excessivement...
Je m'attendais à la réponse.
Non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout stopper et stigmatiser les écrans, mais je crois que c'est ça aussi qui me rend optimiste quand j'entends des témoignages où des parents nous disent que les ados, en général, n'écoutent que les ados avec les réseaux sociaux. Et là, c'est l'occasion pour que les parents renouent une vraie communication avec leurs adolescents, justement en partageant leurs inquiétudes dans le confinement, mais aussi leurs croyances, leur philosophie de vie, leur goût. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on parle à ses ados, que le parent parle à son ado, mais aussi que l'ado écoute et entende ce que son parent a à lui dire, et non pas tout le temps entendre ce qu'il a envie d'entendre avec ses copains sur les réseaux. C'est normal d'avoir un besoin d'autonomie avec ses copains, mais c'est aussi très normal d'avoir besoin d'un modèle parental qui, enfin, dans le confinement, va dire « toi, j'existe aussi, et regarde, il y a peut-être des choses qu'on peut créer ensemble ».
Catherine Jousselme, vous avez une position similaire sur les écrans en ce moment et les ados?
Oui, peut-être je le formulerais autrement, c'est que je pense que c'est pas seulement assouplir ou pas assouplir, c'est que ça a une autre place. C'est-à-dire que quand on peut pas voir ses copains, si on n'est pas avec un groupe WhatsApp ou autre, c'est très compliqué pour certains jeunes. Ils ont besoin de ce lien social. Par contre, ça prend pas la même place que tourner en rond sur des écrans sans intérêt. Là, il y a des jeunes qui vivent confinés dans un appartement avec toute une famille, 6 personnes, sans balcon et qui peuvent sortir qu'une heure par jour. Ceux-là, s'ils peuvent pas avoir le contact avec leurs copains par des réseaux sociaux, c'est compliqué. Il y a des familles qui sont dans ce genre de système-là, dans des villes et dans des appartements compliqués. Famille qui a ressorti la Wii, par exemple, parce que ils vont jouer tous ensemble. Ça, c'est un assouplissement, parce qu'ils ne l'avaient pas fait avant. Et au contraire, ils géraient ce truc-là de façon beaucoup plus réglée. Et là, il y a un partage. Donc, je pense que les outils informatiques aujourd'hui, ils doivent prendre une place qui est un peu différente pendant le confinement. Alors, on peut parler d'assouplissement ou pas d'assouplissement, mais en tout cas, c'est un lieu de partage avec l'extérieur pour les adolescents et de partage aussi à l'intérieur avec la famille, et notamment sur l'histoire de l'école. Moi, j'ai des familles où c'est les grands-parents qui font par WhatsApp les devoirs avec les enfants, parce que, par exemple, les parents, ils sont en télétravail à la maison, s'arrachent les cheveux toute la sainte journée, avec plus de boulot que d'habitude. L'école a donné une tonne de boulot, donc il y en a trop, donc il y a une pression pas possible. Et du coup, ce lien social-là, les grands-parents découvrent des trucs qu'ils savaient pas faire avec ces outils Internet, et là, il y a du lien qui est intéressant. Donc, ça prend une autre place, et j'espère, je suis optimiste de nature, donc j'espère que cette place va rester aussi un peu comme celle-ci. C'est-à-dire qu'il y aura une vraie communication entre les adultes et les jeunes autour de ces outils, et non pas quelque chose qui serait négatif. Par contre, c'est vrai que certains jeunes, on l'a vu tout à l'heure, certains vont s'enfermer dedans, et là c'est compliqué, c'est ce qu'on disait. Une petite partie de la population des adolescents peut aller plus mal pendant le confinement. Ceux-là sont des adolescents à risque et il faut s'en occuper. On ne peut pas ne pas s'en occuper. Et puis d'autres sont dans la régulation, on le voit bien, avec des teintes particulières de vie, et il n'y a pas besoin
oui,
de
tout cela. Mais certains... Tout cela est nuancé, on l'a compris, Catherine Jusselme. Didier Pleu, Laurence, une auditrice nous dit « Mon fils de presque 17 ans, en première, me demande de l'emmener chez le médecin pour lui prescrire des médicaments afin de l'aider à travailler. Il dit de ne plus réussir à se concentrer. » Vous qui avez écrit sur la concentration, aider ses enfants, ses adolescents et ses enfants à se concentrer, est-ce que vraiment vous conseillez à Laurence de donner des médicaments à son ado de 17 ans pour qu'il se concentre davantage?
Bien sûr que non, parce que s'il y avait des pilules miraculeuses psy comme ça, ça se saurait. Donc non, c'est une demande de toujours pareil, d'immédiateté. J'arrive pas à me concentrer, trouvez-moi tout de suite une formule pour que ça aille mieux sans me fatiguer. Non, la concentration, c'est toujours pareil, c'est lié avec l'acceptation du frustrant, du déplaisant, du contraignant. Et ça relève de l'éducation. Donc quand un adolescent a un problème de concentration, c'est pas forcément un problème psy, ça n'a pas forcément un sens, ça peut être simplement j'ai du mal à me contraindre à faire des choses que je n'aime pas. C'est pour ça que je répète que le confinement, ça peut être vraiment un terrain d'expérimentation pour que l'ado voit bien que bah tu vois, il y a des choses qu'on n'aime pas faire, nous aussi les adultes, mais tu as vu, quand on accepte certaines contraintes et frustrations, ben on s'en sent que mieux après.
Mais Didier Pleu, quel conseil concret vous donneriez? Bon, on a compris, hein, il faut un peu tenir tête à son adolescent, lui apprendre à gérer la frustration, mais concrètement, vous lui dites quoi s'il vous dit « je n'arrive pas à se concentrer », quel exercice, quelle façon, quelle chose mettre en pratique pour améliorer sa concentration?
Dans ce cas-là, on prend des petits conseils concrets. T'arrives pas à te concentrer peut-être parce que le thème que tu travailles à l'école n'a aucun sens pour toi. Donc, est-ce que t'as un objectif de vie? Est-ce que t'as un rêve professionnel? Ensuite, il arrive pas à se concentrer sans doute parce que il y a des tas de parasites au niveau du plaisir qui font qu'il aimerait plutôt aller sur les réseaux que de se s'enquiquiner à faire un devoir. Ensuite, il y a aussi sa façon de prendre les informations. Est-ce que t'es pas un peu trop impulsif? Est-ce qui fait qu'en 10 secondes, tu n'as plus saisi le critère pertinent d'un problème et tu te perds en rêverie, etc. Donc, il y a plein de choses concrètes qu'on peut faire avant d'interpeller un professionnel de la santé ou de donner la pilule miracle qui fait que tout va se régler en peu de temps. Il y a des choses basiques, objectifs, professionnels, façon de faire, méthodologie de travail et surtout, est-ce qu'on arrive à se concentrer quand on a son smartphone à deux mètres? Est-ce qu'on arrive à se concentrer quand il y a du monde dans la chambre, etc. Donc merci. Effectivement, dans le confinement, c'est dur de se concentrer si on est 4 ou 5 personnes dans deux pièces. Donc il faut d'abord voir avec la réalité avant d'envisager des possibles.
Merci Didier Pleu et Catherine Jusselme. C'était de précieux conseils. Nous aurions pu en prendre davantage. Il y avait beaucoup de questions, pardon aux auditeurs, dont nous n'avons pas pu prendre les questions par téléphone ou par mail. Mais il est temps à 9h54 de rejoindre Denis Chessou. Bonjour Denis.
Bonjour cher Daniel et bonjour à tous. Alors, je suis pas certain d'avoir envie de revenir adolescent. Hein,
oh, c'était pas non plus le but de l'opération. C'est à présent votre page blanche et verte tous les samedis en fin de première heure. Mais avant de vous mettre dans la peau d'un rorqual, puisque c'est ce que vous allez faire, les animaux en ville, Denis.
Ben oui, parce qu'ils ont toujours été là, ils n'ont plus besoin de se planquer, bien évidemment. Ils sortent quand ils veulent, ils reniflent le silence, ils vont vous interroger le calme. Et quand ils se promènent, eh ben, les magrets sur pattes ne sont même pas verbalisés. Ah ben oui, cher Daniel, parce qu'en fait, les canards en ville, les canards, ils font partie de la nation apprenante. Et ils se cultivent en regardant les affiches de la Comédie française. On les a tous vus, donc c'est pas le mi-pède Place Colette. Alors, dis donc, là, zut, ils jouent même pas le canard à l'orange. Ah ben, c'est bien la peine qu'on vienne là. Ah bah oui, c'est comme ça. Quant aux rats et aux pigeons, alors confinement ou pas, ils étaient déjà chez eux, bien visibles avec leurs cartes de famille nombreuses. Bon, nous, bah vous le savez, on n'a pas encore de sangliers, de cercicas en ville comme à Barcelone ou au Japon. Mais en ce moment, toujours en ville, si on regarde bien, bah ce sont les noces des renards sous les abribus, la copulation des fouines ou des hannetons dans les cours d'école, la nuptialité heureuse du blaireau à l'entrée d'un magasin Nature et Découverte. Alors, vous rajoutez les oiseaux qui nous encourage au bord de nos fenêtres. Eh, dites donc, là, ça va, c'est pas trop dur, la vie en cage? Et en fait, tout ce petit monde bah, aura un choc en rentrant fissa, se confiner sur ses berges ou son terrier à la fin de notre confinatitude.
Des oiseaux parisiens à la Méditerranée, Denis, rien ne vous arrête malgré l'interdiction de circuler.
Alors moi, le rorqual, je peux vous dire qu'on est bien. On ne s'est jamais approché aussi près de Marseille sans voir un seul maillot de l'OM, c'est absolument incroyable. Et oui, parce que ce parc national des Calanques débute dans le 8e arrondissement de la ville. Et les dieux marins que nous sommes se frottent près de vos Calanques pour quelques semaines de villégiature, sous un ciel mistralisé d'embrun. Alors, vous avez vu, nous les Rorquals, quand on nous fiche la paix, en 3 semaines, ça y est, on revient. La pêche côtière est arrêtée, alors qu'au loin, les bateaux-usines continuent à racler les fonds. Alors, faut quand même bien dire que tous les deux, avec ma compagne, votre silence nous a intrigués. Parce que vous faites sacrément du bruit d'habitude. Votre vie, vous les humains, c'est une boîte de nuit. Parce que le bruit, c'est exister pour vous. Mais ça pollue la mer, nos oreilles, et ça dérègle aussi nos sonars.
Alors, et en plus, vous êtes, si je puis me permettre, ami Rorqual de nid, on peut le dire, une belle bête.
De plusieurs tonnes. Et oui, cher Daniel, je suis le deuxième animal le plus grand de la planète, après ma copine la baleine bleue. Et sous la toile, je peux mesurer à peu près 20 mètres, vivre jusqu'à 100 ans, alors sauf si je suis braconné, si j'avale vos métaux lourds, les organochlorés, les boues rouges. Et vous savez pas vous tenir. Mais alors mon truc, moi c'est quand même l'opéra. C'est les vocalises sous-marines, les basses fréquences. Et en ce moment, alors là je peux vous dire que je me régale parce qu'il y a 100 fois moins de bruit en mer. Oubliez tous ces jet-skis pitoyables aussi autorisés qu'inconséquents. Qu'est-ce que vous voulez ? L'être humain, il se vit avec un moteur aux fesses. Et le moteur de la vie, il le connaît même pas. Moi, je vous fais 300 km dans la journée, à 37 de moyenne, à coups de nageoire et sans un bruit. Alors, je sais bien qu'au moment du réveil, quand vous remettrez les gaz, on repartira au large et on sera juste un souvenir sur vos photos. Alors, est-ce que demain, la nature restera une variable d'ajustement ? Les humains ont perdu le mode d'emploi de leur vie, alors nous, les baleines et rorquals, avec notre sourire de 50 millions d'années, on peut vous renvoyer au socratique « connais-toi toi-même », mais aussi « connais un peu plus le milieu qui te porte et qui porte toute la beauté dont tu as besoin ». Alors, pour le moment, on en profite, c'est une orgie marine et les dauphins marchent sur l'eau pour s'échanger des vœux de Pâques.
Merci Denis, à la semaine prochaine. Rendez-vous dans CO2 Mon Amour le samedi et le dimanche désormais à 13h30 pour une respiration nature qui nous mène aujourd'hui en compagnie des loups et de votre ami le cinéaste Jean-Michel Bertrand dans les Hautes-Alpes. Merci Denis et bon week-end à vous.
À bientôt, merci Daniel, merci à tous.
En deuxième heure, nous nous évaderons avec l'explorateur Jean-Louis Etienne et puis nous parlerons allergies au pollen qui reviennent avec les beaux jour, les allergologues sont submergés de questions, inquiétés par leurs patients concernant le Covid-19. Alors, nous ferons le point sur la question avec l'allergologue Édouard Sève.